las conferencias de Radio Languedoc. Début de février de 2013, se debaneron apenas dos jornadas de rencontre sul PCI, patrimonio cultural y material. Aquelles jornadas manejadas per lo collectiu Patrimoine et Création, en partenariat amb lo CIRDOC de Béziers, recampèt cercaires et acteurs de terrain. Escambièron sas pratiques et réflexions sur la sauvegarde et la transmission del patrimoine cultural immatériel occitan. Vous préparez d'écouter la seconde partie de las interventions réalisée le dimanche 13 de février de 2013 à l'hôpital local de Pézenas.
Bah, écoutez Claude, et puis on verra suivant le temps court, parce que beaucoup de personnes ont des choses à dire aussi dans la salle. On va faire au mieux.
Bon, moi je dirais, je serai très court. Pour laisser justement la parole à des tas de gens qui sont dans la salle et qui ont prouvé de par leur pratique combien le patrimoine culturel immatériel existe et existera malgré qu'il n'ait jamais connu l'existence de ce mot. Je dirais trois constatations. La première constatation, c'est qu'on est un pays quand même un peu exceptionnel. Hein, le Languedoc... Roussillon, on a 4 parcs. Hein, les Cévennes, le littoral, l'Écosse, au Languedoc, qui va devenir maintenant inscrit au truc de l'UNESCO sous le titre de l'agropastoralisme. Et on a aussi là-bas, dans le Roussillon, 4 parcs. On a la mer, on a la montagne, on a tout le passé des correspondances réciproques, culturelles et économiques entre la montagne et la mer. On a la Méditerranée qui est notre berceau. On est présent dans la cuisine, on est présent dans les sports, on est présent dans les fêtes saisonnières, on est présent dans des tas de domaines dont je ne vais pas faire l'inventaire, mais qui tous appartiennent au patrimoine culturel immatériel. Donc c'est un constat. Nous sommes assis sur un trésor. Et puis je défie qui que ce soit de me prouver le contraire. Deuxième constat, c'est que nous sommes également certainement une région de France qui a le plus de gens intéressés par cette chose-là. Où que j'aille, je rencontre des gens qui sont investis dans ces choses-là. Dans le domaine maritime, les expériences qu'il y a eu sur le Gros du Roi, je pourrais multiplier les cas, je ne veux pas m'aventurer à ces numérations, parce qu'on n'en finirait plus et je sauterais des gens. Voilà. Donc, deuxième constat, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce terrain. Mais dans un isolement qui, moi, me fait problème parce qu'il est à la limite pathologique. D'une pathologie culturelle, mais il faudrait, mais ça serait l'objet d'autres colloques, d'analyser laquelle. Le troisième constat, c'est que dans un territoire si riche, avec une participation populaire si ample, eh bien moi, par exemple, qui travaille sur ce front depuis les années 70, à tous les niveaux, la recherche, le conte, la mise en scène, etc., je constate que je vais disparaître dans quelques années sans avoir la certitude que tout ce qu'on a appris et que Christian a très très bien dans un témoignage émouvant qu'il a fait hier au Vieux Théâtre, toute cette pratique extraordinaire, bon, je veux dire, c'est pas une pratique d'école, c'est une pratique vraiment, moi je me rappelle quand Christian apprenait la finesse du tambour de Pézenas avec les conseils que lui disait Gaston, et Gaston c'était pas un type qui jouait vraiment du tambour, il connaissait un peu, mais il me dit « putain c'est pas ça !» Comme quoi, même jouer du tambour, la façon de timbrer, mais c'était ce souvenir, j'aurais aimé le filmer de A à Z, parce que putain c'était d'une richesse musicale, mais en même temps identitaire, mais au bon sens du mot, quoi. Cette chose qu'on appelle la diversité aujourd'hui. Bon, passons là encore. Toujours est-il que... Des exemples, on pourrait en avoir plein la bouche et on en écrirait des tomes et des tomes. On n'est pas là pour ça. Constatation, c'est que moi, personnellement, c'est bien, je suis d'une autre génération et je suis très heureux d'entendre, mettons, de Mme Vaillant, ce qu'elle dit sur une autre façon peut-être aujourd'hui de transmettre, et je suis tout à l'écoute de ces choses-là, c'est pourquoi je serai bref. Mais moi, dans ma peau maintenant de quelqu'un de 65 ans qui est vraiment été là à l'université, dans des carnavals, dans les parcs, dans les veillées, dans... je constate que je mourrai comme sont morts avant moi des gens comme Léon Corde, des gens comme... en Provence, des grands auteurs de théâtre qui ne seront jamais beaucoup connus, d'autres dans le pays niçois, Végac, etc. Je constate que si les choses continuent comme ça, ce que Christian a appris, ce que j'ai appris, mais qu'on a appris dans des livres aussi, hein. Heureusement qu'ils sont là, les chercheurs, heureusement qu'il y a Gagnebé, heureusement qu'il y a des gens qui nous ont donné des phares sur le chemin, parce que des copes qu'il y a, on sentait notre cœur, le besoin de les dire, un cœur qui aurait explosé tellement on avait envie de le dire. Mais trouver les concepts et les mots pour le dire, avec précision, c'était difficile, parce que c'est difficile d'être sans cesse à la foire et au moulin. Hein. Bon, donc, merci aux chercheurs. Et moi, mon constat, on peut mal transmettre. On en a reçu plein la gueule, parce que ça serait aussi toute une analyse qu'il faudrait faire sur ces choses-là. Petit exemple, n'oublions pas que depuis quelques années, on avait deux revues pour faire la critique de ce qu'on fait sur le patrimoine culturel et matériel. On en connaissait pas le mot, mais on avait la revue Méditerranée, avec Charles Dominique, qui maintenant est prof à la faculté de Nice. Il est parti parce que, justement, tout le beau boulot qu'il a fait ici, il n'a pas pu le continuer. Méditerranée a disparu. Et le travail qu'a fait Marie-Hélène Bonafé aussi, pour auteur en scène. Là aussi, elle n'a pas été subventionnée. La revue a disparu. Comme ça, je pourrais multiplier les exemples, des tas d'exemples. Pourquoi je ne suis pas resté à l'Université de Nice alors qu'on a été les premiers à fonder la première licence professionnelle artistique en France? Donc, il y a des blocages. Dans un pays qui pourtant a des gisements énormes et en même temps a des gens qui travaillent sur le matériau. Je ne vais pas aller plus loin sinon que de constater quelque chose, quelques petits éléments. Premièrement, et ça animera le débat, ensuite vous en ferez ce que vous voulez. Premièrement, les professionnels, de par la force des choses, un mot quand même. C'est vrai que les années 1970 ont révolutionné tous les concepts qu'on avait sur la notion de folklore, de tradition, etc., etc., etc. Ça a été dit, bien dit, passons. Depuis les années 80, on a avalé les couleuvres, mais on peut constater avec la mondialisation deux aspects du problème. Un, c'est qu'on est menacé de disparition et d'uniformisation. Deux, c'est que quand même, maintenant, il y a... un besoin, même de populations qui arrivent pour habiter ici, et de leur participation, même ils arrivent à habiter ici, leur participation, en mettant dans les écoles calandrettes, dans des opérations comme hier à Pézenas, on est maintenant, concrètement, on est sur, c'est pas de la philosophie, on n'a pas besoin d'aller chercher Marx ou Freud ou Jung, ce que vous voulez, on est dans la constatation que le patrimoine culturel immatériel chez nous, aujourd'hui, ceux qui le portent, ceux qui le battent, ce sont des gens d'ici d'ailleurs. Et bravo, et tant mieux. Donc, ne perdons pas trop de temps sur ces choses-là. Par contre, réfléchissons à quelques éléments. Moi, les professionnels sont enfermés de plus en plus, de par la loi du marché culturel, dans un quelque chose qui est une sorte de nombrilisme professionnel. C'est-à-dire, il faut sauver sa boutique. Et alors, à force de sauver sa boutique, on ne pense pas à la solidarité, on ne pense pas au problème général, on ne pense pas d'analyser des choses comme se passe aujourd'hui. On a le nez dans le guidon, et même dans le pare-choc, des fois. Les amateurs, enfin, les associatifs, eux, ils sont pris dans des conjonctures locales. Hier, quand je suis rentré, je n'avais pas vu la robe rouge du poulain. Putain, j'ai dit, ils l'ont habillé en Papa Noël. Alors, je peux comprendre que le poulain de Pézenas puisse servir la politique commerciale de Pézenas à un moment donné, comme Noël, il faut faire travailler les supermarchés, les bazars et tout. À la limite, je suis prêt à aller très loin dans ce domaine de l'économie. Encore faut-il réfléchir quelle économie. Je suis prêt à aller très loin là-dessus, mais finalement, je constate une nouvelle fois que, de même façon que le poulain a été au service des rois de France, chaque fois que le roi passait, il fallait que le poulain y montre patte blanche, et bien, ma foi, on n'en est pas beaucoup beaucoup sorti, et que les pisses noires qui ont dansé autour du poulain de génération en génération, ils ont toujours été le cul entre deux chaises, entre servir au pouvoir local, ou au contraire, assumer profondément ce que le poulain représente de fond. Alors, premièrement, à ce niveau-là, où vous en êtes les uns et les autres ? Est-ce que vous voulez rester dans cette sorte de localisation extrême ou qui conduit à ce qu'on a appelé la version un peu passéiste du folklore, bien que le mot moi non plus ne me fasse pas peur, et aux professionnels leur dire jusqu'à quel point vous allez vous enfermer dans un isolement comme ça, c'est-à-dire vous êtes peut-être patrimoine, vous êtes peut-être Languedoc, vous êtes peut-être Occitanie, mais je vous avais finalement des comportements de bonnes petites troupes à la française ou au général qui, ma foi, vous êtes là sur votre chemin de la professionnalité et de sauver les meubles au jour le jour. Premier constat. Deuxième constat, est-ce qu'on est prêt de travailler ensemble ? Si on travaille tous ensemble, avec tous les gens qui travaillent sur la région, on est une force considérable. Travailler ensemble, ça veut dire une troisième chose. Quelle image on donne de nous ? Renouveler le poulain de Pézenas, c'est en même temps réfléchir aux origines du poulain de Pézenas. Vouloir faire du patrimoine culturel immatériel ici, c'est en même temps se dire qu'est-ce que c'est le patrimoine culturel immatériel ? Bon, un colloque comme ça va servir. Autre chose, comment on va se regrouper ? C'est la question que je pose, mais en même temps, comment on va avancer ? On a des blocages au niveau politique, on a des blocages à tous les niveaux, alors comment on joue avec ces blocages ? Il faut être à la fois en dialogue avec le pouvoir et en même temps en rébellion avec le pouvoir, parce que c'est la nature de la culture populaire de savoir parler sur les deux terrains. Et moi, j'en ai vraiment aussi plein la chatte d'être complètement écartelé à ce niveau-là, c'est-à-dire en même temps tendre la main pour avoir trois sous et en même temps cracher dans cette main parce qu'elle n'en donne pas assez. Donc, quelle image on va donner de nous ? Comment on peut se regrouper pour quand même déverrouiller les choses ? Et en même temps, je conclurai là-dessus, si on n'arrive pas à se regrouper, si on n'arrive pas à trouver un outil de communication, c'est-à-dire qui donne de ce qu'on appelle folklore, tradition, trouver le mot qu'il faut, Benkagi. Trouvons le mot et trouvons l'image qui fait qu'on va apparaître d'une façon nouvelle et fertile aux yeux de tout le monde. Si on n'arrive pas à se regrouper, si on n'arrive pas comme ça à communiquer une bonne image, si on n'arrive pas également à traiter ce problème de la transmission, alors on a des projets par exemple avec la région sur qu'est-ce que serait une formation. La formation, je m'excuse, il faut former tout le monde maintenant. Ceux qui enseignent ces choses-là, très peu et mal dans les écoles. Mais en même temps, les personnels culturels qui sont dans les médiathèques, qui sont payés par les collectivités territoriales, ils donnent une image restreinte. Ils ne savent même pas des fois ce que ça veut dire, le patrimoine culturel immatériel. Bon, au niveau également, comment trouver un terrain d'union dans la formation entre ce qu'on appelle les associatifs et les professionnels ? Autre chose, quels projets peuvent nous mettre ensemble sur le terrain ? Quelles démonstrations ensemble on va pouvoir faire ? Hier, on l'a fait. Bon, avec nos moyens, mais on a les Amis du Poulet, on a le Théâtre des Origines, on a l'Hôpital de Jour. On a des écoles. Bon, c'est un exemple pissinois parce que, de par la force des choses, ici, il s'est passé un certain nombre de choses. Mais moi, je crois qu'il faut avoir des projets communs aussi. Il faut que la région Languedoc-Roussillon, peut-être aujourd'hui, se dise, il faut... Moi, j'y crois pas aux appels où on va avoir tous les animaux totémiques dans un collectif. Mais on peut en avoir quelques-uns, on peut avoir quelques groupes professionnels, on peut avoir quelques chercheurs. La question, elle est comment tous on va travailler ensemble sur en même temps quelques projets. Comme ça, où on va faire la démonstration auprès de nos élus et auprès des populations qu'il se passe des choses importantes au niveau du patrimoine culturel immatériel. Et que vraiment, dans cette région, avec les gens qu'il y a et le gisement qu'il y a, on peut faire des choses. Alors que tout, en ce moment, le pognon, il fuit ailleurs. Je veux dire, qui profite de la mondialisation en ce moment ? Mais vous ne pouvez pas avoir idée de putain, allez sur les sites internet qui vont vous parler, faire des reconstitutions historiques avec le costume du Moyen-Âge, ou avec celui de la Renaissance, ou avec celui des habits de Molière. Mais le marché foisonne. Le malheur, c'est qu'il foisonne, mais pour des gens qui font de la cascade culturelle, et acrobatique, peut-être que c'est bien, mais je veux dire, mais les contenus culturels et historiques sont déprimants, alors que nous, nous avons ici des gens qui sont porteurs d'une richesse considérable. Je pense à mer et montagne, mais quand je les vois dans la rue, je me dis, mais peu les pauvres, ils se mettent dans la rue, comme se mettent dans la rue les peignasses, ou comme se mettent dans la rue les batoukades, etc. Si vous ne trouvez pas une formule qui vous fait apparaître dans la rue différemment, vous êtes cuit, on est cuit. Et je pourrais, j'ai pris cet exemple et je pourrais en prendre d'autres sur chacune des troupes qui sont ici. Et malheureusement, on n'a pas souvent, on n'a pas le temps d'en discuter, mais il faudrait bien le faire. Donc, dernier point, également, il faut avoir un réseau qui nous sorte de nos professionnalités ou qui nous sorte de nos enfermements locaux. Il faut qu'au niveau de l'Europe, au niveau de l'UNESCO, on puisse sortir de chez nous. Chez nous, on a prouvé ce qu'il y a à prouver. C'est bloqué. Si on ne commence pas à débloquer par le haut, on risque de perdre notre vie, comme j'ai perdu la mienne, à essayer de taper de la tête, du cœur, du cul, du vieil, sur les portes qui s'en trouvent, histoire de quand même montrer que quand même on n'oublie pas complètement qu'on est langue de siècle. Mais en même temps, bon, tu avances quoi, d'un millimètre chaque siècle. Alors, il faut que là aussi, on étudie comment on peut maintenant aller dans des réseaux européens, dans des réseaux mondiaux, sur des projets conséquents. Si on ne fait pas ça, on pourra toujours se faire des chatouilles comme les faits libres l'ont fait à leur époque en se disant, et attention, hein, les faits libres, on peut leur jeter le caillou, hein, mais quand même, ils ont été avant Van Gennep et tous les gens qui ont restauré la notion du folklore, etc., à la fin du 19e et au début du 20e, hein, le Muséum Arlatin, Mistral, etc., ils étaient au charbon dès 1850 sur ces questions de l'ethnographie. Alors on peut maintenant leur dire, vous êtes poussiéreux, etc., et il faut leur dire, mais quand même, ça n'a pas empêché qu'ils se sont encroutés. Bon, donc, comment on va débloquer toutes ces choses-là? C'est les questions que je vous pose, parce que moi, à mon âge, je crois que j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis, je mourrai en disant qu'on n'a pas été très loin. Voilà.
Donc, si vous avez des questions à poser, des interventions, suite à Anaïs et à Claude.
Je voudrais juste Anaïs, sur cette question d'immatérialité du patrimoine immatériel. Oui, je suis tout à fait d'accord sur le fait que le patrimoine immatériel n'a rien d'immatériel, ne serait-ce parce qu'il s'incarne dans des corps qui le font vivre, dans des lieux. Il associe des instruments, des objets tout à fait matériels. Et simplement, pour moi, c'est cette distinction entre matérialité et immatérialité, elle ne tient pas, mais elle est simplement opératoire, parce qu'elle lui permet d'exister contre, justement, cette conception matérielle qui a dominé et qui continue, hein, quelque part, de dominer. Alors, effectivement, il faut faire attention de ne pas exister uniquement contre. En même temps, je veux dire, on en a parlé très rapidement hier, mais effectivement, en tout cas au niveau de l'UNESCO, ça s'est construit volontairement, cette convention de 2003, elle prenait le contre-pied de celle de 72, justement en ouvrant, en redéfinissant le concept de culture, de patrimoine, et en replaçant effectivement les communautés au cœur de tout ça, et même justement par rapport à ce qu'a dit Jean-Louis Tornator, c'est même plus que ça, c'est-à-dire que les communautés doivent être associées à tout le processus, mais c'est elles-mêmes qui doivent désigner ce qui fait patrimoine pour elles. Contrairement, effectivement, à, par exemple, à la Convention 72, où ce sont des experts qui désignent de l'extérieur qui a une valeur supérieure. Là, c'est l'inverse. C'est les praticiens eux-mêmes qui disent ce qui, pour eux, fait patrimoine sans aucune hiérarchie, etc. Donc voilà, c'est simplement... La question des inventaires, c'est pareil, c'est-à-dire en soi, faire un inventaire du patrimoine immatériel, est-ce que ça a vraiment un sens? Est-ce que c'est vraiment le plus approprié, etc. On vous répondra que, en tout cas en France, hein, et je suppose ailleurs, ben, ça permet tout simplement d'exister par rapport à l'inventaire général, hein, du patrimoine culturel, qui existe depuis fort longtemps. Et malheureusement, en fait, pour avoir une existence aux yeux, en tout cas d'une certaine administration, eh ben, il faut parler leur langage et utiliser des outils qu'ils connaissent. Et donc, l'inventaire, la fiche d'inventaire qui, en soi, effectivement, on peut s'interroger, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon quand on traite de patrimoine immatériel. Enfin voilà, c'était juste, c'est un levier d'action et qui a le mérite d'exister. Et après, critiquons-le autant qu'on peut. Effectivement, il est là pour ça aussi, et c'est très bien. Mais bon, voilà. Mais je suis bien d'accord que la distinction entre matériel et immatériel est complètement artificielle.
Oui, Patrick.
Et Jean-Louis Tournator parlait qu'il avait l'obsession de l'autorité. Moi, j'ai l'obsession de l'Occitan. Et la question que je me pose, c'est quel est le lien entre la langue et le PCI? Quelle est la langue du PCI? Je donne un seul exemple. En Aquitaine, il y a un service patrimoine, au conseil régional, il y a un service patrimoine de 20 personnes qui représente un budget considérable. Pas une n'a une compétence sur la langue occitane. Tout le travail qui est fait, je pense que c'est à peu près partout. Quels sont les ethnologues qui maîtrisent la langue du terrain sur lequel ils sont? On va en Papouasie, l'ethnologue apprend le papou avant. Partout dans le monde, c'est comme ça. Mais on peut, en France, aller enquêter en Bretagne, aller enquêter en Provence, et on se fiche de la question de la langue, sachant que la seule langue d'enquête, c'est le français. Et là, je pense qu'il y a un vice de forme profond. Et donc, moi, je pose la question de la langue et du lien à la langue. Et je crois qu'on ne peut pas faire de travail réellement sérieux, ou en tout cas on passe à côté de plein de choses si on n'intègre pas la langue dans le travail que l'on fait. Donc je pose la question à tous ceux qui sont sur cette table, quel lien on peut faire avec la langue, quel lien on doit faire.
Las conferencias de Radio Languedoc.
Si vous permettez, en deux mots. Moi, je pense qu'il ne faut pas être de l'extrême ni de l'autre. Pour moi, pourtant je suis militant occitaniste, pour moi, le patrimoine culturel immatériel, c'est le sédiment que des centaines de peuples et de cultures ont déposé chez nous. Quand je me bats pour le patrimoine culturel immatériel, ici, je le positionne en même temps en tant qu'Occitan, en tant que Français, en tant qu'Ibère, en tant que Méditerranéen, en tant que tous ces peuples qui ont fait dépôt ici. Quand moi je reprends une tradition, eh bien Saint-Blaise il y a posé sa crotte, mais avant Saint-Blaise il y a Gargantua, les Celtes qui ont posé la leur, avant eux il y a les Ibères qui ont posé la leur, avant eux il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Donc il ne faut pas, je pense, être là ethnocentriste. C'est-à-dire, il y a une injustice éhontée que le paramètre occitan ne soit pas pris en considération sur ces choses-là, parce que c'est l'avant-dernier. Mais actuellement, également, il y a un paramètre français qui nous entoure. On le refuse, on l'accepte, mais il est là. Il y a aussi des choses qui s'élaborent patrimonialement en français aujourd'hui. Et en même temps, il y a nos prédécesseurs. Il n'y a qu'à voir également que maintenant, il y a des Européens, il y a des gens d'origine espagnole, d'origine italienne qui sont à nos côtés et même qui nous apprennent nos propres traditions. Moi, c'est ma philosophie sur ta question.
Par rapport, qu'en est-il de la démarche des Occitans des Valles, de Guinness Cavalcanti qui a fait cette caminade de marché des Valles Occitanes d'Italie jusqu'au Val d'Aran pour réunir deux endroits où la langue justement est reconnue? Et pour faire justement la demande à l'UNESCO de reconnaissance de la langue. Où cela en est-il? Est-ce que quelqu'un sait?
Alors moi, j'en ai jamais entendu parler.
Sur la notion de patrimoine, on a actuellement chaque année des journées européennes du patrimoine. On est à Pézenas. Le poulain a été inscrit au patrimoine matériel de l'UNESCO. On a d'énormes difficultés à faire prendre en compte le patrimoine immatériel dans ces journées-là. C'est-à-dire que pour beaucoup, le patrimoine reste à Pézenas, parce qu'il y en a aussi beaucoup, le patrimoine bâti, d'accord ? Alors, y compris le patrimoine Molière, mais le reste, c'est quand même une grande difficulté. Alors, dans la mesure où il y a eu une inscription, dans la mesure où il y a des obligations de la part des communes qui sont inscrites à ce niveau-là, de quelle façon œuvrait dans ce domaine-là, vous pouvez un peu titiller les collectivités pour leur rappeler que les journées européennes du patrimoine, c'est aussi le patrimoine immatériel.
Alors, en ce qui concerne simplement les obligations, c'est un peu compliqué justement en ce qui concerne ce dossier-là. C'est ce que j'avais commencé à expliquer hier, c'est que en fait, effectivement, aujourd'hui, les dossiers de candidature pour la liste représentative, il y a des engagements, il y a des obligations pour les porteurs. Donc, généralement, il y a le soutien d'une collectivité, et donc, effectivement, il y a des obligations. Pour le dossier des géants et dragons professionnels de Belgique et de France, c'était l'ancienne formule des chefs-d'œuvre. Il n'y avait aucune obligation, aucun engagement. Alors, c'est vrai que c'est toute l'ambiguïté. Par rapport à ce dossier-là. Sur les journées du patrimoine, alors moi je sais que je vois émerger ici et là, mais effectivement ce sont des initiatives souvent de collectivités ou d'associations. En tout cas en Bretagne, moi qui est quand même une région pilote, on peut le reconnaître dans le domaine. Il y a des initiatives, effectivement, j'en ai vu les dernières années, et je ne sais pas où cela en est, mais en 2013, on célèbre donc les 10 ans de cette convention UNESCO qui a été adoptée en 2003, et je sais que au niveau du ministère, en tout cas le département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique qui est chargé de mettre en œuvre cette convention, a tenté d'insister pour que en 2013 l'accent soit mis sur le patrimoine immatériel. Mais je ne sais pas si ça a porté ses fruits, si ça a porté ses fruits. Enfin...
Est-ce que je peux répondre à M. Verdeil?
Pardon?
Oui. Est-ce que je peux répondre à M. Verdeil?
Oui.
Voilà, Christine Catala, animatrice de l'architecture et du patrimoine à Pézenas. Donc ça fait 2 ou 3 ans, je pense, oui, René, quand même, que tu peux le dire. Oui, 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 non, je ne me sens pas en cause, mais c'est pour préciser que depuis 2 ou 3 ans, le Poulain sort pour les journées du patrimoine. C'est vrai qu'au début, personnellement, j'ai eu du mal à savoir comment cette candidature au patrimoine immatériel avait été montée. Je n'ai pas du tout été associée. Mais pour moi, c'est important que le Poulain soit reconnu comme patrimoine. Cette année, les amis du Poulain, tu en as parlé, peut-être René propose d'accueillir d'autres animaux totémiques. Et c'est vrai qu'on a discuté un petit peu de la date qui serait peut-être favorable à cet accueil. Alors on a plutôt proposé la semaine après les journées du patrimoine, parce qu'ici, sur ces journées, il y a une attente importante du public autour du patrimoine bâti, et que l'année où vous avez invité des musiciens, des figurants, je crois, pour intervenir, en fait, ça a été... très intéressant, très animé, etc. Mais on a eu beaucoup de remarques du public qui nous a dit la musique nous a gênés pour écouter les visites guidées. C'est vrai qu'il y a une énorme attente sur les visites guidées de la ville. Voilà, mais nous on est ouverts à toute proposition.
Il faut peut-être arriver à associer les deux, des visites guidées avec
la déambulation, avec la musique, c'est faut trouver des formules.
Je pense qu'il faut peut-être pas imposer, mais en tout cas quand même aller dans tout. Nous, c'est pareil, on est installé dans un monument historique. Et en fait, la première année, quand je suis arrivée en 2011, je me suis dit, journée du patrimoine, profitons-en, il va y avoir du monde pour justement faire découvrir ce qu'on faisait, le patrimoine immatériel, etc. En fait, les gens qui viennent, effectivement, il y a foule, comme il n'y a jamais au centre. Mais effectivement, ils viennent pour le monument historique. Et mais malgré tout, on me l'a dit tout de suite, les services des animations du patrimoine m'ont dit, non mais vous savez, vous embêtez pas, de toute façon, ils vont. Ce qui t'intéresse, c'est la visite. Ne me fatiguez pas. Malgré tout, l'année suivante, on a créé la fameuse exposition, l'EPCI, qu'est-ce que c'est, qui va aller notamment au CIRNOC, et qui aurait dû se terminer pendant l'été, et on a volontairement prolongé. Et effectivement, je pense que les visiteurs, il y a eu, je sais pas, 300 personnes en 2 jours, évidemment, ils ont certainement pas pris le temps vraiment de regarder l'exposition, mais en même temps, ils venaient pour le patrimoine bâti, et je pense que quand même, il y en a tout cas une bonne partie, qui eut la curiosité, en tout cas, de lire, ne serait-ce que la présentation de l'exposition. Donc bon, essayer. Moi, je dirais qu'il faut, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire à Vitré, c'est profiter justement de cet intérêt incroyable. Enfin, une journée, c'est incroyable le monde que ça mène pour, comme ça, essayer de distiller quelques informations et un intérêt pour le patrimoine immatériel. Je pense que c'est comme ça qu'il faut.
Très bien.
Donc je donne la parole à Alain Charrier et ensuite tout de suite Sophie Jacques.
Donc Alain Charrier, je suis musicien et formateur de la musique traditionnelle. Donc, je voudrais commencer en remerciant Claude d'avoir clairement posé les enjeux de notre survie tout simplement dans les domaines qui nous occupent. Et la proposition de Claude de se regrouper, de savoir qui on est, etc., je pense que ça serait peut-être une question, René, à tes attentes, c'est-à-dire que cette visibilité que tu déplores, qu'elle manque, éventuellement avec un regroupement, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais si on sait exactement qui on est, si on se regroupe, peut-être que les problèmes de visibilité disparaîtront, s'amélioreront là-dessus. Donc, avant de passer au sujet proprement dit, donc qui est...
J'ai introduit du côté...
Vas-y.
Voilà. Donc, Alain et moi-même, nous allons parler de cette formation que Claude a parlé. Donc, Claude a parlé, c'est Mar et Montagne. Mar et Montagne, c'est le mariage entre deux instruments populaires, traditionnels, patrimoniaux. Donc c'est notre cornemuse de la montagne noire. Je ne vais pas en reparler puisqu'on en a parlé hier, de la boudègue qui s'est mariée avec le hautbois traditionnel de la plaine. Marée montagne, pourquoi? Parce que quand on fait des répétitions, les maritimes ils amènent les huîtres et nous la charcuterie de notre montagne. Donc en fait, cette formation vite fait, c'est une troupe, mais Alain va en parler. Et ensuite, on verra un extrait du film, justement, qui retrace le mariage.
Bon, moi, j'ai écrit un petit texte parce que ça m'évitera de m'évader, puis on n'a pas beaucoup de temps. Donc, avant de passer à ce sujet de marée montagne, je voudrais exposer rapidement en quelques minutes mon histoire, celle du renouveau aussi du hautbois languedocien et les motivations qui m'ont amené. Qui nous ont amené à créer cette troupe avec Sophie. Moi, je suis toujours militant occitaniste, donc depuis le début des années 70, dans cette région du Bas-Languedoc, et plutôt que les réunions enfumées, où on n'arrivait pas trop à déboucher sur certaines choses, j'ai choisi plutôt l'action culturelle, avec un groupe militant, un groupe de musiciens, qui était un groupe autodidacte, et qui a très rapidement opté pour les chants et les instruments traditionnels. Tout en opérant une réflexion sur ces objets, comment ces pratiques pouvaient interagir avec l'évolution de la société, les revendications économiques, y compris celles des paysans du Larzac, celles des mineurs de Cazeville, ça c'était un peu plus ancien, 62, celles des mineurs du bassin d'Alès, les viticulteurs en lutte, ici à Pézenas, on en sait quelque chose. Et donc, ce travail que nous faisions influait sur un devenir social et politique. Et tout mon parcours depuis ces années s'est inscrit à ce questionnement. Et bon, je me suis rendu compte assez concrètement que ce choix que j'ai fait de devenir musicien professionnel au milieu des années 80 ne devait pas et ne pouvait pas nous couper, tous ceux qui avaient fait ce choix, d'une indispensable pratique amateur. Dans ce contexte, déjà à l'époque, qui était... une bataille militante pour la langue, la culture d'oc, mais aussi pratiquement pour la survie économique. Et ça, ça n'a pas changé, ça s'est même empiré, en tant que travailleur culturel. D'où le choix de mener à la fois une activité d'artiste, musicien, au sein de groupes professionnels, parfois assez pointus, je ne vais pas les citer, hein, c'est pas la peine, parallèlement à une activité de formateur de transmission, formateur en hautbois languedocien principalement, puis de FIFRE, ici même à Pézenas, quand je me suis senti légitime dans ce rôle, à la fois techniquement et sur une connaissance un petit peu approfondie de la tradition, de son évolution. Donc, pour parler très rapidement du hautbois, le hautbois languedocien, donc c'est un instrument qu'on a découvert au sein de ce groupe militant, ça s'appelait Cardabel à l'époque, certains s'en souviennent encore. Donc on est allé à la recherche spontanément comme ça, on savait qu'à 7 il y avait les joutes languedociennes, on a pris contact avec des groupes folkloriques, nous avions 20 ans à peu près à l'époque, donc on est allé voir Léonce Beaumadier, certains le connaissent, Félibre Biterrois, donc il nous a dit une moitié de choses, il a fait beaucoup de rétention parce qu'on était un peu trop chevelu, un peu trop bon, on ne parlait pas assez, avec assez de raffinement, bon, c'est pas bien grave. Donc on est tombé là-dedans, on a fait des stages, on avait cette fougue que peuvent avoir, comme aujourd'hui, et ça fait plaisir, des groupes comme Grailoli, comme bon, à travers leur pratique du carnaval, etc. Donc, et je vais faire aussi une toute petite parenthèse sur la fonction de hautbois des joutes languedociennes, que j'exerce principalement à 7 ans. Entre parenthèses, les joutes languedociennes, c'est un sport qui a permis aux hautbois languedociens de ne pas disparaître. La pratique est restée continue. Quand nous sommes arrivés sur ce terrain-là avec Laurent Audemars, mon collègue, il restait deux musiciens qui jouaient et qui ont été ravis de nous voir arriver. Ils se sont jetés sur nous comme la misère sur le pauvre monde. Et donc tout de suite, ils nous ont mis à l'ouvrage. Ils nous ont appris le rudiment des musiques de joute et on est monté tout de suite sur la barque, pratiquement, et on a appris vraiment sur le tas. Donc, plus tard, j'ai appris que c'était une charge, donc la charge de hautbois de joute à 7 et dans tout le bassin de Tours, professionnalisée depuis l'origine, semble-t-il, autour du bassin de Tours, et qui est certainement héritée des ménétriers de l'ancien régime, hein, qui a eu le privilège, donc, je l'ai dit, de ne pas être interrompu. Et c'est vrai que ça a de l'avenir, cette fonction de hautbois et de tambour sur les joutes de 7. Ça a de l'avenir, les tournois se multiplient, on en fait deux ou trois fois plus que quand je suis arrivé, moi, au début des années 80. Et je voudrais marquer que c'est, selon moi, une des situations, avec certainement la fonction de fifre et de tambour ici, derrière le poulet, et aussi les musiciens de Fécos à Limoux, où se réalise cet accomplissement qui était mon souhait, c'est de devenir à la fois un musicien traditionnel et un musicien populaire. Ce qui n'est pas toujours le cas, ça ne va pas toujours ensemble. Marie Montagne, donc, c'est une troupe école qu'on a créée il y a 4 ou 5 ans avec Sophie, et que je remercie de m'avoir donné ce petit temps d'expression. Donc ça réunit à la base l'école de Boudègue, dont on a parlé, de Sophie à Villard-Noël dans l'Aude, et mes ateliers de hautbois languedociens au conservatoire de Sète, et ici à l'école de musique à Pays de Pézenas, où j'enseigne aussi depuis quelque temps le fifre. Donc avec l'appui indispensable d'un pupitre de percussion traditionnelle, dont quelques-uns issus de l'atelier de tambour de joute de mon collègue Daniel Tournebise à Sète, et surtout bon, la maîtrise de Coco Lemeur qui dirige cet atelier de percussion, avec une bombe du Lauragais. Bon, avant qu'on réalise cette troupe école, Sophie et moi, nous nous croisions parfois et nous avons mutuellement constaté les convergences d'objectifs de nos ateliers. Et l'idée a germé d'une pratique commune de ces deux instruments emblématiques des deux aires culturelles voisines, donc le Pays Basque, acquis, la plaine balangodossienne, donc qui est l'aire naturelle de jeu du... Enfin, l'aire où s'est restreint un petit peu le hautbois languedocien, en fait, parce que ce hautbois, ça nous allait très loin, c'était... cette forme de hautbois, on l'a trouvée partout en Europe, dans l'ancien régime. Hein, puis c'est vrai qu'en Languedoc, on ne sait pas trop pourquoi, enfin, Pierre Laurens, qui est un chercheur là-dessus, pourrait le dire mieux que moi, c'est resté vivant ici. Donc, voilà, en montant ce projet, nous savions que nous écrivions aussi dans une tradition de voyage et d'échange. J'ai pas complété, hein, il y a la plaine languedocienne et la Boudègue, le Languedoc Naut, la montagne en Ingres, la montagne en Ingres. Donc nous savions que nous écrivions dans une tradition de voyage et d'échange et que nous n'inventions pas grand-chose, en fait, puisqu'on sait par exemple que du côté des hautbois, les Amboissaires, les Amboisses des Cévennes ou du bassin de Thon pouvaient parcourir des grandes distances pour se produire et avoir des échanges au moins de répertoire, mais aussi, alors ça c'est pas vraiment attesté, on sait pas trop, mais des pratiques communes avec d'autres instruments. Très ponctuellement, mais ils avaient ces pratiques. Donc on n'a pas inventé grand-chose. Une des nouveautés, par contre, c'était de prendre en compte une évolution récente depuis le revival, le terme occitan, la respéride, on peut dire peut-être, des années 70, dont nous sommes issus, hein, on peut le dire. C'est la pratique en troupe nombreuse, hein, parce que ces instruments, en fait, que ce soit le boudingue ou le hautbois, je parlerai plutôt du hautbois, dans la mémoire collective ici, ils sont plutôt solistes ou en paire avec le tambour. Enfin, à deux sur les joutes, à deux aussi sur la bouvine, en petite Camargue, mais même pas, je crois qu'en petite Camargue, c'est un instrument soliste. Et de toute façon, avec le tambour. Et c'est vrai que depuis les années 70, on a assisté à des regroupements, maintenant on pratique un petit peu en bande. Mais on sait que c'était une pratique qui se faisait aussi il y a plus longtemps, que la mémoire populaire a occulté, mais grâce à l'excellent ouvrage de Luc-Charles Dominique, dont tu as parlé tout à l'heure, et de Pierre Laurence, on sait que les oboïstes ménétriers professionnels de l'Ancien Régime pratiquaient en bande assez nombreuse au service des autorités consulaires. C'est attesté à Toulouse de façon certaine, c'est attesté à Montpellier, et on peut penser peut-être que les États du Languedoc, ici même à Pézenas, avaient une couple de hautbois. Ça, c'est pas certain. Et à Béziers aussi, on peut l'imaginer. Donc, on s'est en quelque sorte inscrit dans une histoire longue en réinventant notre manière. Donc, il a fallu bien sûr affronter des difficultés de techniques et musicales en raison des différences organologiques de nos deux instruments, faire ressortir la complémentarité. Mais bon, c'est vrai que ça n'a pas été ultra simple, mais l'envie était là, les motivations étaient là, on savait où on allait. Comme disait certains, la pente était raide, mais le chemin était droit quand même. Quoi. On y est arrivé, vous l'avez peut-être constaté hier, avec la petite réserve que si on n'était pas que des musiciens, si on était aussi des metteurs en espace, et qu'il y ait ce que tu disais, Claude, tout à l'heure, qu'on puisse bénéficier de ce que vous avez fait ici pour la Seine-Blaise, notamment, que des gens comme toi encadrent face à la mise en scène, etc. C'est sûr que nous, on aspire à rien qu'à ça. Et donc, ton projet, ça nous intéresse au plus haut point. Donc, le répertoire, il est puisé beaucoup, évidemment, dans la tradition des deux instruments, la boudègue et le hautbois ici, des deux aires géographiques, mais aussi, ça c'est important pour nous, des reprises de chansons, d'air plus moderne, au gré des propositions et des avis. Mais, volontairement ou pas, tous ces emprunts hors de la tradition, ils sont tout de même reliés à travers la langue occitane. Ça va te faire plaisir. Et c'est vrai que ça, on y tient. C'est à la fois une réalité que nous vivons, mais c'est aussi une volonté militante assumée, quand même. Même si, effectivement, on est français, hein, on n'est pas que occitan, on est tous ces pays qui nous entourent aussi. Quoi. Quant au théâtre de nos exploits musicaux, ce sont des... On se fait gronder.
En gros, ben, on a participé à des foires ouais. De terroir, des festivals... voilà, le terroir,
c'est
festival
plus...
aussi dans le... Donc on essaye d'être visible dans ce territoire. On souffre de notre solitude, on souffre du manque de moyens, de nos écarts géographiques, mais l'envie, est, je pense que c'est une belle rencontre qui permet voilà, justement ces échanges.
Causèrent la seconde partie de las interventions réalisées à Pézenas le dimanche 13 février de 2013 dans l'encastre del séminaire organisé par le collectif Patrimoine et Création sur la thématique PCI, Patrimoine culturel immatériel, un partenariat Amel Ousirdog.